Allez, on passe tout de suite au marché cette semaine. Spectaculaire, hein, tu le disais tout à l'heure Sébastien, on a eu une journée de mercredi, bon vous l'avez tous eu, hein, plus presque 5% de hausse sur les marchés européens et les marchés asiatiques, plus de 3% de hausse sur les marchés américains. On voit les indices de la semaine, hein, 7% de hausse sur le Nikkei. Bon, ça fait du bien de voir du vert quand même, hein. Puis ça fait du bien de voir du vert avec Shanghai en baisse, bon, ça me fait plaisir. Et allez, 2026, bah, on est pas mal. Bon, on était dans le rouge la semaine dernière, tout le monde se plaignait. Ça va, je sais, c'est pas énorme, mais c'est quand même pas mal. C'est quoi l'événement qui vous a le plus marqué cette semaine sur les marchés, Frédéric ?
Le rebond de certaines valeurs. Il y a des thématiques assez intéressantes.
Par exemple ?
Les croisiéristes, tout ce qui était à l'arrêt, l'aviation, c'est des bons...
Ça a repris combien, ça ?
Des 10, des 15 ? Des 15-20%. Donc, ouais. Voilà, c'était... Tous les secteurs, et c'est intéressant, on en parlera tout à l'heure, mais tous les secteurs qui ont été pris un peu dans la nasse de la fermeture, quasiment la situation du Covid. Mmh. On a eu l'impact du Covid sur certains secteurs, et le transport maritime, bref. Et donc là, c'était ce qu'il y a de plus violent. Et c'est vrai que, je suis d'accord, c'est un mouvement qu'on a eu sur 24 heures, puis... Tout de suite, on a rebasculé encore la journée de
mais pas beaucoup.
Pas beaucoup, on revient sur les mêmes...
Non, après, ce qu'a dit Sébastien était très intéressant. On est revenu sur les fondamentaux.
Oui, mais ce qui est intéressant, c'est un peu comme une mâchoire de crocodile, le marché. C'est-à-dire que sur le S&P, il y a des secteurs, et notamment la chimie, il y a des performances à 60-70%, notamment ce qui est lié à des dérivés pétrochimiques. Et à l'inverse, tout ce qui est IT, logiciel, c'est moins 50, ouais. moins 60%. L'écart de performance qu'on a eu en un trimestre, c'est juste phénoménal.
Ah, mais c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on vous écoute, j'ai l'air quelqu'un qui ne connaît pas les marchés, qui arrive, je lui montre ce tableau, et il dit, il est parti en vacances pendant 3 mois, dans un endroit où on ne reçoit pas de missiles, et il se dit, bon... Il était coupé du monde. Il dit, bon, il ne s'est rien passé, les gars. Bon, c'est bien, je suis parti, il n'y a rien. Et vous dites, non, d'abord, on sait qu'il s'est passé plein de choses sur les indices, mais derrière les indices, en fait, les indices, c'est un peu un écran de fumée. Oui. Derrière, il y a une dispersion qui est phénoménale.
Toute la baisse, en tout cas, une partie de la baisse a été entraînée par les logiciels, les dérivés logiciels aux États-Unis. Et tous les dérivés, alors pétrole, bien sûr, les producteurs de pétrole, tout ce qui est raffinage, tout ce qui est pétrochimie, c'est des hausses incroyables depuis le début de l'année.
L'événement qui t'a marqué cette semaine, c'était quoi ?
Moi, j'étais sur le fait qu'assez rapidement, on est revenu aux fondamentaux d'avant l'Iran.
D'avant la guerre en Iran.
Et c'est fondamental.
Bah, les principaux fondamentaux, c'est l'IA, quoi. Parce qu'en
exactement.
Fait,
je voudrais juste donner quelques chiffres pour que les gens aient vraiment en tête ça. Anthropic, donc, qui fait Claude, qui est aujourd'hui un peu le leader... Surtout en B2B, donc en business. ChatGPT est très connu auprès du grand public, mais pour les entreprises, c'est Claude. Claude, c'était 1 milliard de revenus annualisés fin 2024, 9 milliards fin 2025, 14 milliards fin janvier, en annualisé, hein, 19 milliards fin février, 30 milliards fin avril. Le SaaS, globalement, c'est 300 milliards de chiffre d'affaires. Et c'était 50 milliards de plus en 2025. Sur ces 50 milliards, il y en a 8 qui viennent d'Anthropic. Donc, c'est 15%. En fait, en réalité, les budgets IT des boîtes ne bougent pas. Mais l'allocation à travers cela est en train de changer dramatiquement.
Quand vous dites qu'ils
ne
bougent pas, je ne suis pas sûr qu'ils ne bougent pas. Je pense qu'ils baissent. Parce que Claude coûte moins cher qu'un éditeur de SaaS.
Après, c'est l'autre sujet.
Qu'un éditeur de logiciels.
Non, mais exactement. Donc, en fait, mais globalement, en Crète, on ne voit pas tellement les budgets. Mais à l'intérieur, ça bouge dramatiquement. Donc, concrètement, il y a HP, c'était Solo qui avait dit l'informatique, je la vois partout sauf dans les stats.
Là,
on la voit très clairement. Et je termine là-dessus, pour l'utiliser chez mon pensier Arbevel, enfin, en tout cas essayer de l'implémenter, il faut une architecture informatique extrêmement précise. Il faut vraiment investir et ça prend du temps de mettre la donnée. Et ça, en Europe, on verra, les boîtes ne seront pas capables de le faire avant 12, 18, 24 mois.
C'est rien, 12, 18, 24 mois, ça va
mais,
très vite.
Mais le plein effet de l'IA dans
sur
les
la
entreprises
vous
et sa
dire.
Productivité, ce n'est pas avant 2 ans. Donc en fait, le marché, c'est là où les gens sont un peu perdus, c'est que le marché anticipe tout ça. Donc vous avez des boîtes de logiciels qui viennent de perdre 50% de valeur, alors que leurs
et des boîtes de logiciels qui étaient les chouchous de la cote il y a 6 mois. On ne parle pas de Stellantis, on ne parle pas d'Arcelor, on ne parle pas de...
Marc, c'est pire que ça. C'est-à-dire que ça a baissé énormément au premier trimestre, mais les prévisions de résultats en 2026 sont supérieures aujourd'hui à ce qu'elles étaient il y a 3 mois. Donc, c'est jamais arrivé. Donc, en fait, pourquoi ? Parce que le marché te dit, la valeur terminale de cette société, elle a fondamentalement baissé. Donc, pour les gens, c'est assez perturbant.
Oui, les leaders comme, Adobe, Salesforce et autres, c'est moins 50% de baisse.
Et c'est des stars. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas des boîtes ringardes, c'est vraiment des stars.
Le pire, c'est que c'est des sociétés qui intègrent l'IA. Ce n'est pas des sociétés qui sont en dehors de ça.
Oui, c'est des sociétés
qui pleinement intègrent l'IA dans leur solution.
Le PER d'Adobe est passé de 40 à 10.
10. Avec un taux de croissance.
Après, le 40 était absurde.
Oui, mais avec un taux de croissance.
Jean-François, comment vous intégrez tout ça? À la fois l'impact de l'IA sur l'économie, parce qu'on voit qu'il y a quand même un phénomène de destruction, hein, de destruction de valeur. Ok, il y a Anthropic qui fait 30 milliards en base annuelle, mais ils ont détruit je ne sais pas combien en capitalisation autour d'eux. Et il y a l'aspect wealth effect, effet richesse des marchés, qui a quand même tiré la croissance américaine l'année dernière. Comment vous intégrez ça dans vos modèles?
Ce qui est très intéressant, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, effectivement, à Salesforce, il va sûrement participer justement de la mise en place de l'architecture de l'IA dans les boîtes. Enfin, je suis pas sûr que ces gens-là vont être des perdants à la fin. Bon, si on réserve juste en termes macroéconomiques, effectivement, Robert Solow, en 1987, il a le prix Nobel quand il dit on voit des ordinateurs partout sauf dans les statistiques, parce qu'évidemment la productivité ne cesse de baisser. 5 ans après avoir eu le prix Nobel, on voit la productivité qui remonte. Et je pense que aujourd'hui, on voit pas l'effet de l'IA dans la productivité. Hein. On la voit pas encore dans les statistiques. On la voit pas dans les chiffres de l'emploi américain. Les chiffres de l'emploi américain qu'on voit aujourd'hui, ils sont pas encore, à mon avis, à mes yeux, du tout impactés à leur pleine mesure de ce qui va arriver. Et à mon avis, ce sera beaucoup plus puissant que ça.
Il y a eu beaucoup de licenciements depuis 3 mois.
C'est ça. Meta, il y avait le no hiring et maintenant il y a le hiring.
Ce qu'on dit, par exemple, bloque 4000 personnes.
Ah ouais, je suis d'accord.
T'as des boîtes. Je parle
à chiffre d'affaires équivalent et profit équivalent.
Je parle des purs, des IA natifs.
Je suis d'accord, moi.
Des digital natifs, c'est-à-dire.
Je suis d'accord.
Pas les gros à la SAP, pas ces gens-là. Moi, je te parle de gens qui réfléchissent cette révolution et qui sont véritablement en train de la mettre en place.
Moi, je pense que c'est devant nous. Je suis d'accord avec toi, en effet, mais typiquement Amazon, etc., c'est des gens qui avaient dit, en fait, oui, c'est des licenciements parce que c'est des gens qui avaient conservé des gens post-Covid en disant, il faut absolument qu'on conserve notre workforce. Et en fait, finalement, il y a des espèces d'effets retard. Mais je suis d'accord, hein, que typiquement, il y a l'étude de Stanford qui dit, il y a 15% de codeurs de moins. Effectivement, il y a plein de boîtes qui donnaient 20 consultants qui maintenant n'ont plus besoin que d'un. On va le voir. Mais je pense que c'est dans le futur qu'on va voir ça aujourd'hui. Les chiffres de l'emploi américains, ils sont beaucoup plus impactés et je dirais difficiles à lire du fait des chiffres de l'immigration plutôt que de l'IA. Et à mon avis, ça, c'est devant nous. Ça, c'est vraiment devant nous en termes macroéconomiques. Après, honnêtement, c'est toujours pareil. C'est l'impact macroéconomique, évidemment, ça gagne. Anthropic, c'est forcément un des gagnants parce qu'ils vendent des pelles. La question, c'est, je suis là où je suis pas trop d'accord avec ce qui a été dit là, c'est que je suis pas du tout persuadé que les Européens vont être beaucoup plus lents que les Américains à mettre en place des trucs de l'IA, puisque ce que dit Microsoft Lab, c'est que sur les 5 premiers utilisateurs de l'IA au quotidien.
On utilise, mais on produit rien.
Oui, mais c'est pas grave. Dans la productivité, c'est ça qui va compter.
C'est vrai.
Aujourd'hui, ce qui va faire rebondir le commerce mondial quand j'entends les chiffres des résultats, c'est que, l'année dernière, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 40% d'augmentation de hausse des exportations de la Corée du Sud aux États-Unis, parce que les États-Unis, plus ils investissent, plus ils importent des puces qui ne produisent pas eux. Donc, à la fin, le commerce mondial va rebondir, mais je suis pas sûr que les États-Unis, en utilisateur final,
seront les
beaucoup, beaucoup meilleurs que le reste du monde.
Vous vouliez réagir?
Moi, je voudrais dire 2 choses. Je pense tout de même que ce qu'on voit sur les indices, ça envoie un message, c'est-à-dire il y a une résistance de l'économie et des marchés au choc. On l'a eu l'année dernière avec les droits de douane de Trump. On s'est affolé d'abord et puis après ça a rebondi et au final on n'a pas eu de surprise sur la croissance. J'ai quand même l'impression que les marchés aujourd'hui nous refont un peu le coup de l'année dernière en se disant il y a une résistance au choc qui est bien meilleure. Deuxièmement, en fait sur la productivité aux États-Unis, ça commence à se voir. On a une accélération de la productivité. Et on pourrait même dire qu'il y a un parallèle entre le choc qu'on a eu avec l'informatique dans les années 80, le choc qu'on a eu avec Internet dans les années 2000. Mais il y a une différence. Alors, c'est que le début, il ne faut pas trop extrapoler. Mais en fait, dans les 2 chocs précédents, on avait un accompagnement de l'accélération de la productivité par des créations d'emplois
c'est
qui
ça,
restaient
qu'on
fortes.
A pas du
et
tout.
Aujourd'hui, on n'a pas de création d'emplois et on a une productivité qui s'améliore. Donc, ça ne se ressemble pas.
Pour la première fois de l'histoire américaine, t'as une population active qui baisse. Oui, et donc ça, l'effet sur la productivité me semble beaucoup plus fort que les 13 000 codeurs de moins.
Hein. Juste pour vous, la bourse, elle va où, Frédéric? Vous êtes plutôt positif le reste de l'année ou...
C'est toujours
le
scénario de stagflation aujourd'hui, c'est une chance sur deux quasiment. Donc si on est en stagflation, je dirais qu'on a vu le plus haut, il était derrière nous. Si on bascule du bon côté... Oui, mais attention, hein, en termes de valorisation et tout ça, on est déjà assez haut et le trend me laisse peu de potentiel, à vrai dire. Je pense qu'on a...
Avec des
ça,
opportunités peut-être sectorielles,
rotations sectorielles, oui.
Sébastien, le marché en général, vous n'aimez pas trop parler des indices, mais vous pensez quand même qu'on est...
Non, mais en fait, là, où, ce qui est rassurant pour ceux qui nous écoutent et nous regardent, c'est qu'en fait, on est dans des marchés qui sont globalement détestés par les acteurs. Dans le sens où le positionnement des acteurs et des gens sont très sous-investis, en réalité. On l'a vu sur pas mal de thématiques où, en fait, les gens n'y croient pas. Et pendant la période février-mars, il y a eu beaucoup de gens qui ont désinvesti. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et c'est Goldman qui a un indicateur facile à comprendre, qui est l'indicateur euphorie, panique. Ça fait assez longtemps qu'on est en peur et en panique, en fait. Et un vrai crack n'arrive pas quand les gens sont sous-investis.
Donc vous êtes plutôt positif sur les marchés.
Et ont peur. Donc moi, je partage cette l'incertitude macroéconomique, mais les indicateurs purement boursiers et financiers ne sont pas inquiétants parce que nous ne sommes pas dans une période d'euphorie et de surpositionnement des uns et des autres.
Alors justement, dans ce contexte-là, c'est quoi pour vous le placement de la semaine, Frédéric Rosier?
Bah, je pense qu'il y a eu une baisse de l'armement, donc je pense que les budgets armement vont repartir. Il faut reconstituer les stocks aussi d'armement. Donc le secteur.
C'est quand même contre-intuitif, hein, qu'en période de guerre, il y ait eu une baisse du secteur de l'armement.
Ouais, c'est. Alors attention, parce que par exemple, pour prendre les secteurs européens, je pense notamment à des généralistes comme Airbus, Safran, c'est qu'une 30% de l'activité. Safran, c'est la motorisation. D'accord. Et l'aérien, quand vous avez Qatar Airways, Emirates. Oui, toutes ces compagnies, on va voir comment on sort après la crise, on va voir si les commandes qui ont été passées vont être honorées, et donc cette partie qui est liée à l'aérien va être sous pression. Mais c'est vrai que des acteurs comme Thales et autres vont profiter.
Non, pour vous, c'est ça, il faut revenir sur la défense.
Je pense que c'est le moment de profiter de cette faiblesse qui était, à mon avis, temporaire.
Placement de la semaine pour vous, Sébastien.
Sur ça, il y a vraiment eu une baisse des bilans, notamment des hedge funds pendant la période, et ça s'est fait en vendant ce qui avait marché.
Bien sûr, donc, comme l'or.
Comme l'or, comme la défense. Donc, une des raisons pour laquelle la défense a baissé, c'est globalement les secteurs qui avaient bien marché.
Je comprends.
Donc, il y a eu cet aspect-là. Non, moi, le placement de l'idée de la semaine, moi, je reviens donc sur les fondamentaux, c'est-à-dire la défense, l'énergie et le capex. Et le capex sur...
C'est quoi le capex, c'est-à-dire ?
C'est les investissements, tout ce qui tourne autour de l'électrification.
D'accord.
Et des pelles et des pioches de l'IA. Donc, il y a quelques secteurs qui vont continuer à en bénéficier. Et à l'inverse, tout ce qui touche à la consommation, au luxe, ces secteurs-là, j'ai pas envie d'y toucher parce que nous sommes dans une nouvelle période. On n'a pas parlé, mais aux États-Unis, une des raisons pour laquelle les gens s'enrichissaient tout le temps, c'était la hausse des marchés. Et on a vu...
L'effet richesse,
mais surtout leur capacité à renégocier leur mortgage.
Bien sûr. Leur taux, leurs emprunts.
Et avec la hausse des taux, c'est plus compliqué. Ouais. Donc, avoir la capacité de
se faire... Il y a moins de pouvoir d'achat.
Bon, en tout cas, il y aura moins d'effets d'aubaine liés à un immobilier qui monte tout le temps.